La prisonnière, chapitre 2, suite 5. Cependant, Ski s'était assis au piano, où personne ne lui avait demandé de se mettre, et se composant, avec un froncement souriant des sourcils, un regard lointain et une légère grimace de la bouche, ce qu'il croyait être un air artiste, insistait auprès de Morel pour que celui-ci jouât quelque chose de bizet. « Comment, vous n'aimez pas cela, ce côté gosse de la musique de bizet ? Mais mon cher, dit-il avec ce roulement d'air qui lui était particulier, c'est ravissant !» Morel, qui n'aimait pas bizet, le déclara avec exagération. Et, comme il passait dans le petit clan pour avoir, ce qui était vraiment incroyable, de l'esprit, Ski, feignant de prendre les diatribes du violoniste pour des paradoxes, se mit à rire. Son rire n'était pas, comme celui de M. Verdurin, l'étouffement d'un fumeur. Ski prenait d'abord un air fin, puis laissait échapper, comme malgré lui, un seul son de rire, comme un premier appel de cloche, suivi d'un silence où le regard fin semblait examiner à bon escient la drôlerie de ce qu'on disait. Puis une seconde cloche de rire s'ébranlait, et c'était bientôt un hilar angélus. Je dis à M. de Charlus mon regret que M. Brichot se fût dérangé. « Mais non, il est très content, il vous aime beaucoup, tout le monde vous aime beaucoup. » On disait l'autre jour, « Mais on ne le voit plus, il s'isole. » D'ailleurs, c'est un si brave homme que Brichot. » Continua M. de Charlus, qui ne se doutait sans doute pas, en voyant la manière affectueuse et franche dont lui parlait le professeur de morale, qu'en son absence, il ne se gênait pas pour dauber sur lui. « C'est un homme d'une grande valeur, qui sait énormément, et cela ne l'a pas racorni, n'a pas fait de lui un rat de bibliothèque, comme tant d'autres qui sentent l'encre. Il a gardé une largeur de vue, une tolérance rare chez ses pareils. Parfois, en voyant comme il comprend la vie, comme il sait rendre à chacun avec grâce ce qui lui est dû, on se demande où un simple petit professeur de Sorbonne, un ancien régent de collège, a pu apprendre tout cela. J'en suis moi-même étonné. » Je l'étais davantage, en voyant la conversation de ce Brichot, que le moins raffiné des convives de Madame de Guermantes eût trouvé si bête et si lourd. Plaire au plus difficile de tous, Monsieur de Charlus. Mais à ce résultat avait collaboré, entre autres influences, distinctes d'ailleurs, celles en vertu desquelles Swann, d'une part, s'était plus si longtemps dans le petit clan, quand il était amoureux d'Odette, et d'autre part, lorsqu'il fut marié, trouva agréable Madame Bontemps, qui, feignant d'adorer le ménage Swann, venait tout le temps voir la femme et se délectait aux histoires du mari. Comme un écrivain donne la palme de l'intelligence, non pas à l'homme le plus intelligent, mais au viveur faisant une réflexion hardie et tolérante sur la passion d'un homme pour une femme, réflexion qui fait que la maîtresse bas bleu de l'écrivain s'accorde avec lui pour trouver que de tous les gens qui viennent chez elle, le moins bête était encore ce vieux beau qui a l'expérience des choses de l'amour. De même, M. de Charlus trouvait plus intelligent que ses autres amis, Brichot, qui non seulement était aimable pour Morel, mais cueillait à propos dans les philosophes grecs, les poètes latins, les conteurs orientaux, des textes qui décoraient le goût du baron d'un florilège étrange et charmant. M. de Charlus était arrivé à cet âge où un Victor Hugo aime à s'entourer surtout de Vaquerie et de Meurice. Il préférait à tous ceux qui admettaient son point de vue sur la vie. « Je le vois beaucoup !» ajouta-t-il d'une voix piaillante et cadencée, sans qu'un mouvement de ses lèvres fit bouger son masque grave et enfariné, sur lequel étaient à demi abaissées ses paupières d'ecclésiastique. « Je vais à ses cours. Cette atmosphère de quartier latin me change. Il y a une adolescence studieuse, pensante, de jeunes bourgeois plus intelligents, plus instruits que n'étaient dans un autre milieu mes camarades. C'est autre chose, que vous connaissez probablement mieux que moi, ce sont de jeunes bourgeois. » dit-il en détachant le mot qu'il fit précéder de plusieurs « b » et en le soulignant par une sorte d'habitude d'élocution correspondant elle-même à un goût des nuances dans la pensée, qui lui était propre, mais peut-être aussi pour ne pas résister au plaisir de me témoigner quelque insolence. Celle-ci ne diminua en rien la grande et affectueuse pitié que m'inspirait M. de Charlus, depuis que Mme Verdurin avait dévoilé son dessein devant moi. M'amusa seulement, et même en une circonstance où je ne me fusse pas senti pour lui tant de sympathie, ne m'eût pas froissé. Je tenais de ma grand-mère d'être dénuée d'amour-propre à un degré qui ferait aisément manquer de dignité. Sans doute je ne m'en rendais guère compte, et à force d'avoir entendu, depuis le collège, les plus estimés de mes camarades ne pas souffrir qu'on leur manquât, ne pas pardonner un mauvais procédé, j'avais fini par montrer dans mes paroles et dans mes actions une seconde nature qui était assez fière. Elle passait même pour l'être extrêmement, parce que, n'étant nullement peureux, j'avais facilement des duels, dont je diminuais pourtant le prestige moral en m'en moquant moi-même, ce qui persuadait aisément qu'ils étaient ridicules. Mais la nature que nous refoulons n'en habite pas moins en nous. C'est ainsi que, parfois, si nous lisons le chef-d'œuvre nouveau d'un homme de génie, nous y retrouvons avec plaisir toutes celles de nos réflexions que nous avions méprisées, des gaietés, des tristesses que nous avions contenues, tout un monde de sentiments dédaignés par nous et dont le livre, où nous les reconnaissons, nous apprend subitement la valeur. J'avais fini par apprendre, de l'expérience de la vie, qu'il était mal de sourire affectueusement quand quelqu'un se moquait de moi et de ne pas lui en vouloir. Mais cette absence d'amour-propre et de rancune, si j'avais cessé de l'exprimer jusqu'à en être arrivé à ignorer à peu près complètement qu'elle existât chez moi, n'en était pas moins le milieu vital primitif dans lequel je baignais. La colère et la méchanceté ne me venaient que de toute autre manière, par crise furieuse. De plus, le sentiment de la justice m'était inconnu jusqu'à une complète absence de sens moral. J'étais, au fond de mon cœur, tout acquis à celui qui était le plus faible et qui était malheureux. Je n'avais aucune opinion sur la mesure dans laquelle le bien et le mal pouvaient être engagés dans les relations de Morel et de M. de Charlus. Mais l'idée des souffrances qu'on préparait à M. de Charlus m'était intolérable. J'aurais voulu le prévenir, ne savais comment le faire. La vue de tout ce petit monde laborieux est fort plaisante pour un vieux trumeau comme moi. Je ne les connais pas, ajouta-t-il en levant la main d'un air de réserve, pour ne pas avoir l'air de se vanter, pour attester sa pureté, et ne pas faire planer de soupçons sur celle des étudiants. Mais ils sont très polis, ils vont souvent jusqu'à me garder une place, comme je suis un très vieux monsieur. Mais si, mon cher, ne protestez pas, j'ai plus de 40 ans, dit le baron qui avait dépassé la soixantaine. Il fait un peu chaud dans cet amphithéâtre où parle Brichot, mais c'est toujours intéressant. Quoique le baron aimât mieux être mêlé à la jeunesse des écoles, voire bousculé par elle, quelquefois, pour lui épargner les longues attentes, Brichot le faisait entrer avec lui. Brichot avait beau être chez lui à la Sorbonne, au moment où l'appariteur, chargé de chaînes, le précédait, et où s'avançait le maître admiré de la jeunesse, il ne pouvait retenir une certaine timidité, et tout en désirant profiter de cet instant où il se sentait si considérable pour témoigner de l'amabilité à Charlus, il était tout de même un peu gêné. Pour que l'appariteur le laissât passer, il lui disait, d'une voix factice et d'un air affairé, « Vous me suivez, baron, on vous placera. » Puis, sans plus s'occuper de lui, pour faire son entrée, s'avançait seul, allègrement, dans le couloir. De chaque côté, une double haie de jeunes professeurs le saluait. Brichot, désireux de ne pas avoir l'air de poser pour ces jeunes gens, aux yeux de qui il se savait un grand pontife, leur envoyait 1000 clins d'œil, 1000 hochements de tête de connivence, auxquels son souci de rester martial et bon français donnait l'air d'une sorte d'encouragement cordial d'un vieux grognard qui dit « Nom de Dieu, on saura se battre !» Puis les applaudissements des élèves éclataient. Brichot tirait parfois de cette présence de M. de Charlus à ses cours l'occasion de faire un plaisir, presque de rendre des politesses. Il disait à quelques parents ou à quelqu'un de ses amis bourgeois « Si cela pouvait amuser votre femme ou votre fille, je vous préviens que le baron de Charlus, prince d'Agrigente, le descendant des Condé, assistera à mon cours. C'est un souvenir à garder que d'avoir vu un des derniers descendants de notre aristocratie, qui est du type. Si elles sont là, elles le reconnaîtront, à ce qu'il sera placé à côté de ma chaise. D'ailleurs, ce sera le seul, un homme fort, avec des cheveux blancs, la moustache noire et la médaille militaire. « Ah, je vous remercie, » disait le père. Et quoi que sa femme eût à faire, pour ne pas désobliger Brichot, il la forçait à aller à ce cours, tandis que la jeune fille, incommodée par la chaleur et la foule, dévorait pourtant curieusement des yeux le descendant de Condé, tout en s'étonnant qu'il ne portât pas de fraises et ressemblât aux hommes de nos jours. Lui, cependant, n'avait pas Dieu pour elle. Mais plus d'un étudiant, qui ne savait pas qui il était, s'étonnait de son amabilité, devenait important et sec, et le baron sortait plein de rêves et de mélancolie. Pardonnez-moi de revenir à mes moutons, dis-je rapidement à M. de Charlus en entendant le pas de Brichot. Mais pourriez-vous me prévenir par un pneumatique si vous appreniez que Mademoiselle Vinteuil ou son amie dussent venir à Paris en me disant exactement la durée de leur séjour et sans dire à personne que je vous l'ai demandé? Je ne croyais plus guère qu'elle eût dû venir, mais je voulais ainsi me garer pour l'avenir. Oui, je ferai ça pour vous. D'abord parce que je vous dois une grande reconnaissance. En n'acceptant pas autrefois ce que je vous avais proposé, vous m'avez, à vos dépens, rendu un immense service. Vous m'avez laissé ma liberté. Il est vrai que je l'ai abdiqué d'une autre manière, ajouta-t-il d'un ton mélancolique où perçait le désir de faire des confidences. Il y a là ce que je considère toujours comme le fait majeur, toute une réunion de circonstances que vous avez négligé de faire tourner à votre profit. Peut-être parce que la destinée vous a averti, à cette minute précise, de ne pas contrarier ma voix. Car toujours l'homme s'agite et Dieu le mène. Qui sait? Si le jour où nous sommes sortis ensemble de chez Madame de Villeparisis, vous aviez accepté, peut-être bien des choses qui se sont passées depuis n'auraient jamais eu lieu. Embarrassée, je fis dériver la conversation en m'emparant du nom de Madame de Villeparisis. Et je cherchais à savoir de lui, si qualifié à tous égards, pour quelle raison Madame de Villeparisis semblait tenue à l'écart par le monde aristocratique. Non seulement il ne me donna pas la solution de ce petit problème mondain, mais il ne me parut même pas le connaître. Je compris alors que la situation de Madame de Villeparisis, si elle devait plus tard paraître grande à la postérité, et même, du vivant de la marquise, à l'ignorante roture, n'avait pas paru moins grande tout à fait à l'autre extrémité du monde, à celle qui touchait Madame de Villeparisis, aux Guermantes. C'était leur tante. Ils voyaient surtout la naissance, les alliances, l'importance gardée dans la famille par l'ascendant sur telle ou telle belle-sœur. Ils voyaient cela moins côté monde que côté famille. Or, celui-ci était plus brillant pour Madame de Villeparisis que je n'avais cru. J'avais été frappée en apprenant que le nom de Villeparisis était faux. Mais il est d'autres exemples de grandes dames ayant fait un mariage inégal et ayant gardé une situation prépondérante. Monsieur de Charlus commença par m'apprendre que Madame de Villeparisis était la nièce de la fameuse duchesse de... la personne la plus célèbre de la grande aristocratie pendant la monarchie de Juillet, mais qui n'avait pas voulu fréquenter le roi citoyen et sa famille. J'avais tant désiré avoir des récits sur cette duchesse. Et Madame de Villeparisis, la bonne Madame de Villeparisis, aux joues qui me représentaient des joues de bourgeoise, Madame de Villeparisis qui m'envoyait tant de cadeaux et que j'aurais si facilement pu voir tous les jours, Madame de Villeparisis était sa nièce, élevée par elle, chez elle, à l'hôtel de... Elle demandait au duc de Doudoville, me dit M. de Charlus, en parlant des trois sœurs. « Laquelle des trois sœurs préférez-vous ? » Et Doudoville ayant dit « Madame de Villeparisis ». La duchesse de lui répondit « Cochon !» Car la duchesse était très spirituelle, dit M. de Charlus en donnant au mot l'importance et la prononciation d'usage chez les Guermantes. Qu'il trouva d'ailleurs que le mot fût si spirituel, je ne m'en étonnais pas, ayant dans bien d'autres occasions remarquer la tendance centrifuge, objective, des hommes qui les poussent à abdiquer, quand ils goûtent l'esprit des autres, les sévérités qu'ils auraient pour le leur, et à observer, à noter précieusement, ce qu'ils dédaigneraient de créer. « Mais qu'est-ce qu'il a ? C'est mon pardessus qui l'apporte ? » dit-il en voyant que Brichot avait si longtemps cherché pour un tel résultat. « J'aurais mieux fait d'y aller moi-même !» « Enfin, vous allez le mettre sur vos épaules. Savez-vous que c'est très compromettant, mon cher ? C'est comme de boire dans le même verre. Je saurai vos pensées. »« Mais non, pas comme ça, voyons. Laissez-moi faire. » Et tout en me mettant son paletot, il me le collait contre les épaules, me le montait le long du cou, relevait le col, et de sa main frôlait mon menton en s'excusant. « À son âge, ça ne sait pas mettre une couverture. Il faut le bichonner. » « J'ai manqué ma vocation, Brichot. J'étais née pour être bonne d'enfant. » Je voulais m'en aller, mais Monsieur de Charlus, ayant manifesté l'intention d'aller chercher Morel, Brichot nous retint tous les deux. D'ailleurs, la certitude qu'à la maison je retrouverais Albertine, certitude égale à celle que, dans l'après-midi, j'avais qu'Albertine rentra du Trocadéro, me donnait en ce moment aussi peu d'impatience de la voir que j'avais eu le même jour, tandis que j'étais assis au piano, après que Françoise m'eut téléphoné. Et c'est ce calme qui me permit, chaque fois qu'au cours de cette conversation je voulus me lever, d'obéir à l'injonction de Brichot, qui craignait que mon départ empêchât Charlus de rester, jusqu'au moment où Madame Verdurin viendrait nous appeler. « Voyons, dit-il au baron, « restez un peu avec nous, vous lui donnerez l'accolade tout à l'heure. » ajouta Brichot, en fixant sur moi son œil presque mort, auquel les nombreuses opérations qu'il avait subies avaient fait recouvrer un peu de vie, mais qui n'avait plus pourtant la mobilité nécessaire à l'expression oblique de la malignité. « L'accolade est-il bête ? » s'écria le baron d'un ton aigu et ravi. « Mon cher, je vous dis qu'il se croit toujours à une distribution de prix. Il rêve de ses petits élèves. Je me demande s'il ne couche pas avec. Vous désirez voir Mademoiselle Vinteuil ? Me dit Brichot, qui avait entendu la fin de notre conversation. Je vous promets de vous avertir si elle vient. Je le saurai par Madame Verdurin. Car il prévoyait sans doute que le baron risquait fort d'être, de façon imminente, exclu du petit clan. « Eh bien, vous me croyez donc moins bien que vous avec Madame Verdurin ?» dit Monsieur de Charlus. « Pour être renseigné sur la venue de ces personnes d'une terrible réputation ? Vous savez que c'est archi connu. Madame Verdurin a tort de les laisser venir. C'est bon pour les milieux interlopes. Elles sont amies de toute une bande terrible. Tout ça doit se réunir dans des endroits affreux. » À chacune de ces paroles, ma souffrance s'accroissait d'une souffrance nouvelle, changeant de forme. « Certes, non pas, je ne me crois pas mieux que vous avec Madame Verdurin !» proclama Brichot en ponctuant les mots, car il craignait d'avoir éveillé les soupçons du baron. et comme il voyait que je voulais prendre congé, voulant me retenir par l'appât du divertissement promis, « Il y a une chose à quoi le baron me semble ne pas avoir songé quand il parle de la réputation de ces deux dames. Et c'est qu'une réputation peut être tout à la fois épouvantable et imméritée. Ainsi, par exemple, dans la série plus notoire que j'appellerais parallèle, il est certain que les erreurs judiciaires sont nombreuses et que l'histoire a enregistré des arrêts de condamnation pour sodomie flétrissant des hommes illustres qui en étaient tout à fait innocents. La récente découverte d'un grand amour de Michel-Ange pour une femme est un fait nouveau qui mériterait à l'ami de Léon X le bénéfice d'une instance en révision posthume. L'affaire Michel-Ange me semble tout indiquée pour passionner les snobs et mobiliser la Villette. Quand une autre affaire, où l'anarchie fut bien portée et devint le péché à la mode de nos bons dilettantes, mais dont il n'est point permis de prononcer le nom, par crainte de querelle, aura fini son temps. Depuis que Brichot avait commencé à parler des réputations masculines, M. de Charlus avait trahi dans tout son visage le genre particulier d'impatience qu'on voit à un expert médical ou militaire quand des gens du monde, qui n'y connaissent rien, se mettent à dire des bêtises sur des points de thérapeutique ou de stratégie. « Vous ne savez pas le premier mot des choses dont vous parlez !» finit-il par dire à Brichot. « Citez-moi une seule réputation imméritée. Dites des noms. Oui, je connais tout !» riposta violemment M. de Charlus à une interruption timide de Brichot. « Les gens qui ont fait cela autrefois par curiosité ou par affection unique pour un ami mort, et celui qui, craignant de s'être trop avancé, si vous lui parlez de la beauté d'un homme, vous répond que c'est du chinois pour lui, qu'il ne sait pas plus distinguer un homme beau d'un laid qu'entre deux moteurs d'auto, comme la mécanique n'est pas dans ses cordes. Tout cela, c'est des blagues. Mon Dieu, remarquez, je ne veux pas dire qu'une réputation mauvaise, ou ce qu'il est convenu d'appeler ainsi, et injustifiée, soit une chose absolument impossible. C'est tellement exceptionnel, tellement rare, que pratiquement cela n'existe pas. Cependant, moi qui suis un curieux, un fureteur, j'en ai connu, et qui n'étaient pas des mythes. Oui, au cours de ma vie, j'ai constaté, j'entends scientifiquement constater, je ne me paie pas de mots, deux réputations injustifiées. Elles s'établissent d'habitude grâce à une similitude de noms ou d'après certains signes extérieurs, l'abondance des bagues, par exemple, que les gens incompétents s'imaginent absolument être caractéristiques de ce que vous dites. Comme ils croient qu'un paysan ne dit pas deux mots sans ajouter « jarniguier » ou un anglais « godam ». C'est de la conversation pour théâtre des boulevards. Ce qui vous étonnera, c'est que les réputations injustifiées sont les plus établies aux yeux du public. Vous-même, Brichot, qui mettriez votre main au feu de la vertu de tel ou tel homme qui vient ici, et que les renseignés connaissent comme le loup blanc. Vous devez croire, comme tout le monde, à ce qu'on dit de tel homme, en vue, qui incarne ses goûts-là pour la masse, alors qu'il n'en est pas pour deux sous. Je dis pour deux sous, parce que si nous y mettions 25 louis, nous verrions le nombre des petits saints diminuer jusqu'à zéro. Sans cela, le taux des saints, si vous voyez de la sainteté là-dedans, se tient, en règle générale, entre 3 et 4 sur 10. Si Brichot avait transposé dans le sexe masculin la question des mauvaises réputations, à mon tour, et inversement, c'est au sexe féminin et en pensant à Albertine que je reportais les paroles de M. de Charlus. J'étais épouvanté par la statistique, même en tenant compte qu'il devait enfler les chiffres au gré de ce qu'il souhaitait, et aussi d'après les rapports d'êtres cancaniers, peut-être menteurs, en tout cas trompés par leurs propres désirs, qui, s'ajoutant à celui de M. de Charlus, faussaient sans doute les calculs du baron. « 3 sur 10 !» s'écria Brichot. En renversant la proportion, j'aurais eu encore à multiplier par 100 le nombre des coupables. s'il est celui que vous dites, baron, et si vous ne vous trompez pas, confessons alors que vous êtes un des rares voyants d'une vérité que personne ne soupçonne autour d'eux. C'est ainsi que Barrès a fait, sur la corruption parlementaire, des découvertes qui ont été vérifiées après coup, comme l'existence de la planète de Le Verrier. Madame Verdurin citerait de préférence des hommes que j'aime mieux ne pas nommer et qui ont deviné au bureau des renseignements, dans l'état-major, des agissements inspirés, je le crois, par un zèle patriotique, mais qu'enfin je n'imaginais pas. Sur la franc-maçonnerie, l'espionnage allemand, la morphinomanie, Léon Daudet écrit au jour le jour un prodigieux conte de fées qui se trouve être la réalité même. 3/10, reprit Brichot stupéfait. Il est vrai de dire que M. de Charlus taxait d'inversion la grande majorité de ses contemporains, en exceptant toutefois les hommes avec qui il avait eu des relations, et dont, pour peu qu'elles eussent été mêlées d'un peu de romanesque, le cas lui paraissait plus complexe. C'est ainsi qu'on voit des viveurs, ne croyant pas à l'honneur des femmes, en rendre un peu seulement à telle qui fut leur maîtresse, et dont ils protestent sincèrement et d'un air mystérieux. « Mais non, vous vous trompez, ce n'est pas une fille !» Cette estime inattendue leur est dictée, partie par leur amour-propre, pour qui il est plus flatteur que de telles faveurs aient été réservées à eux seuls, partie par leur naïveté, qui gobe aisément tout ce que leur maîtresse a voulu leur faire croire, partie par ce sentiment de la vie qui fait que, dès qu'on s'approche des êtres, des existences, les étiquettes et les compartiments faits d'avance sont trop simples. 3/10, mais prenez-y garde, moins heureux que ces historiens que l'avenir ratifiera, baron. Si vous vouliez présenter à la postérité le tableau que vous nous dites, elle pourrait la trouver mauvaise. Elle ne juge que sur pièce et voudrait prendre connaissance de votre dossier. Or, aucun document ne venant authentiquer ce genre de phénomène collectif que les seuls renseignés sont trop intéressés à laisser dans l'ombre, on s'indignerait fort dans le camp des belles âmes, et vous passeriez tout net pour un calomniateur ou pour un fol. Après avoir, au concours des élégances, obtenu le maximum et le principal sur cette terre, vous connaîtriez les tristesses d'un blackboutage d'outre-tombe. Ça n'en vaut pas le coup, comme dit, Dieu me pardonne, notre Bossuet. Mais je ne travaille pas pour l'histoire, répondit M. de Charlus. La vie me suffit, elle est bien assez intéressante, comme disait le pauvre Swann. Comment ? Vous avez connu Swann, baron ? Mais je ne savais pas. Est-ce qu'il avait ces goûts-là ? Demanda Brichot d'un air inquiet. Mais est-il grossier ? Vous croyez donc que je ne connais que des gens comme ça ? Mais non, je ne crois pas, dit Charlus les yeux baissés et cherchant à peser le pour et le contre. Et pensant que, puisqu'il s'agissait de Swann, dont les tendances si opposées avaient été toujours connues, un demi-aveu ne pouvait qu'être inoffensif pour celui qu'il visait et flatteur pour celui qui le laissait échapper dans une insinuation. « Je ne dis pas qu'autrefois, au collège, une fois par hasard, » dit le baron comme malgré lui, et comme s'il pensait tout haut, puis se reprenant. « Mais il y a 200 ans, comment voulez-vous que je me rappelle ? Vous m'embêtez !» conclut-il en riant. « En tout cas, il n'était pas joli joli !» dit Brichot. « Lequel, affreux, se croyait bien, et trouvait facilement les autres laids. « Taisez-vous, dit le baron, vous ne savez pas ce que vous dites. Dans ce temps-là, il avait un teint de pêche. Et, ajouta-t-il en mettant chaque syllabe sur une autre note, il était joli comme les amours. Du reste, il était resté charmant, il a été follement aimé des femmes. Mais est-ce que vous avez connu la sienne ? Mais voyons, c'est par moi qu'il l'a connue. Je l'avais trouvée charmante dans son demi-travesti un soir qu'elle jouait Miss Sacripant. J'étais avec des camarades de club, nous avions tous ramené une femme, et bien que je n'eusse envie que de dormir, les mauvaises langues avaient prétendu, car c'est affreux ce que le monde est méchant, que j'avais couché avec Odette. Seulement, elle en avait profité pour venir m'embêter, et j'avais cru m'en débarrasser en la présentant à Swann. De ce jour-là, elle ne cessa plus de me cramponner. Elle ne savait pas un mot d'orthographe. C'est moi qui faisais ses lettres. Et puis, c'est moi qui ensuite ai été chargée de la promener. Voilà, mon enfant, ce que c'est que d'avoir une bonne réputation, vous voyez. Du reste, je ne la méritais qu'à moitié. Elle me forçait à lui faire faire des parties terribles, à 5, à 6. Et les amants qu'avait eus successivement Odette? Elle avait été avec un tel, puis avec un pauvre Swann, aveuglé par la jalousie et par l'amour. Et tels ces hommes, dont pas un seul n'avait été deviné par lui tour à tour, supputant les chances et croyant au serment plus affirmatif qu'une contradiction qui échappe à la coupable, contradiction bien plus insaisissable et pourtant bien plus significative, et dont le jaloux pourrait se prévaloir plus logiquement que de renseignements qu'il prétend faussement avoir eus pour inquiéter sa maîtresse. Ses amants, monsieur de Charlus se mit à les énumérer avec autant de certitude que s'il avait récité la liste des rois de France. Et en effet, le jaloux est, comme les contemporains, trop près, il ne sait rien. Et c'est pour les étrangers que le comique des adultères prend la précision de l'histoire et s'allonge en liste, d'ailleurs indifférente, et qui ne devienne triste que pour un autre jaloux, comme j'étais, qui ne peut s'empêcher de comparer son cas à celui dont il entend parler, et qui se demande si, pour la femme dont il doute, une liste aussi illustre n'existe pas. Mais il n'en peut rien savoir. C'est comme une conspiration universelle, une brimade à laquelle tous participent cruellement et qui consiste, tandis que son ami va de l'un à l'autre, à lui tenir sur les yeux un bandeau qu'il fait perpétuellement effort pour arracher, sans y réussir, car tout le monde le tient aveuglé, le malheureux. Les êtres bons par bonté, les êtres méchants par méchanceté, les êtres grossiers par goût des vilaines farces, les êtres bien élevés par politesse et bonne éducation, et tous par une de ces conventions qu'on appelle principe. Mais est-ce que Swann a jamais su que vous aviez eu ses faveurs? Mais voyons, quelle horreur! Raconter cela à Charles, c'est à faire dresser les cheveux sur la tête. Mais mon cher, il m'aurait tué tout simplement. Il était jaloux comme un tigre. Pas plus que je n'ai avoué à Odette, à qui ça aurait, du reste, été bien égal, que... Allons, ne me faites pas dire de bêtises. Et le plus fort, c'est que c'est elle qui lui a tiré des coups de revolver que j'ai failli recevoir. Ah, j'ai eu de l'agrément avec ce ménage-là. Et naturellement, c'est moi qui ai été obligée d'être son témoin contre Dosmond, qui ne me l'a jamais pardonné. Dosmond avait enlevé Odette, et Swann, pour se consoler, avait pris pour maîtresse, ou fausse maîtresse, la sœur d'Odette. Enfin, vous n'allez pas commencer à me faire raconter l'histoire de Swann. Nous en aurions pour 10 ans. Vous comprenez, je connais ça comme personne. C'était moi qui sortais Odette quand elle ne voulait pas voir Charles. Cela m'embêtait d'autant plus que j'ai un très proche parent qui porte le nom de Crécy, sans y avoir naturellement aucune espèce de droit, mais qu'enfin cela ne charmait pas. Car elle se faisait appeler Odette de Crécy. Elle le pouvait parfaitement, étant seulement séparée d'un Crécy, dont elle était la femme, très authentique celui-là, un monsieur très bien, qu'elle avait ratissé jusqu'au dernier centime. Mais voyons, pourquoi me faire parler de ce Crécy? Je vous ai vu avec lui dans le Tortillard. Vous lui donniez des dîners à Balbec. Il devait en avoir besoin, le pauvre. Il vivait d'une toute petite pension que lui faisait Swann. Je me doute bien que, depuis la mort de mon ami, cette rente a dû cesser complètement d'être payée. « Ce que je ne comprends pas, me dit M. de Charlus, c'est que, puisque vous avez été souvent chez Charles, vous n'ayez pas désiré tout à l'heure que je vous présente à la reine de Naples. En somme, Je vois que vous ne vous intéressez pas aux personnes en tant que curiosité. Et cela m'étonne toujours de quelqu'un qui a connu Swann, chez qui ce genre d'intérêt était si développé, au point qu'on ne peut pas dire si c'est moi qui ai été à cet égard son initiateur ou lui le mien. Cela m'étonne autant que si je voyais quelqu'un avoir connu Whistler et de ne pas savoir ce que c'est que le goût. Mon Dieu, c'est surtout pour Morel que c'était important de la connaître. Il le désirait, du reste, passionnément, car il est tout ce qu'il y a de plus intelligent. C'est ennuyeux qu'elle soit partie, mais enfin, je ferai la conjonction ces jours-ci. C'est immanquable qu'il la connaisse. Le seul obstacle possible serait si elle mourait demain. Or, il est à espérer que cela n'arrivera pas. Tout à coup, Brichot, comme il était resté sous le coup de la proportion de 3/10 que lui avait révélée M. de Charlus, Brichot, qui n'avait pas cessé de poursuivre son idée, avec une brusquerie qui rappelait celle d'un juge d'instruction voulant faire avouer un accusé, mais qui, en réalité, était le résultat du désir qu'avait le professeur de paraître perspicace et du trouble qu'il éprouvait à lancer une accusation si grave. « Est-ce que Ski n'est pas comme cela ? » demanda-t-il à M. de Charlus d'un air sombre. Pour faire admirer ses prétendus dons d'intuition, il avait choisi Ski, se disant que, puisqu'il n'y avait que 3 innocents sur 10, il risquait peu de se tromper en nommant Ski, qui lui semblait un peu bizarre, avait des insomnies, se parfumait, bref, était en dehors de la normale. « Mais pas du tout !» s'écria le baron avec une ironie amère, dogmatique et exaspérée. « Ce que vous dites est d'un faux, d'un absurde, d'un à côté. Ce qui est justement cela pour les gens qui n'y connaissent rien. S'il l'était, il n'en aurait pas tellement l'air. » Ceci soit dit sans aucune intention de critique, car il a du charme, et je lui trouve même quelque chose de très attachant. « Mais dites-nous donc quelques noms !» reprit Brichot avec insistance. Monsieur de Charlus se redressa d'un air de morgue. « Ah, mon cher, moi, vous savez, je vis dans l'abstrait. Tout cela ne m'intéresse qu'à un point de vue transcendantal. » répondit-il avec la susceptibilité ombrageuse particulière à ses pareils et l'affectation de grandiloquence qui caractérisait sa conversation. « Moi, vous comprenez, il n'y a que les généralités qui m'intéressent. Je vous parle de cela comme de la loi de la pesanteur. » Mais ces moments de réaction agacée, où le baron cherchait à cacher sa vraie vie, duraient bien peu auprès des heures de progression continue où il la faisait deviner, l'étalait avec une complaisance agaçante, le besoin de la confidence étant chez lui plus fort que la crainte de la divulgation. « Ce que je voulais dire, reprit-il, c'est que pour une mauvaise réputation qui est injustifiée, il y en a des centaines de bonnes qui ne le sont pas moins. Évidemment, le nombre de ceux qui ne le méritent pas varie selon que vous vous en rapportez au dire de leurs pareils ou des autres. Et il est vrai que si la malveillance de ces derniers est limitée par la trop grande difficulté qu'ils auraient à croire un vice aussi horrible pour eux que le vol ou l'assassinat pratiqué par des gens dont ils connaissent la délicatesse et le cœur, la malveillance des premiers est exagérément stimulée par le désir de croire, comment dirais-je, accessible des gens qui leur plaisent, par des renseignements que leur ont donnés des gens qu'a trompé un semblable désir, enfin par l'écart même où ils sont généralement tenus. J'ai vu un homme, assez mal vu à cause de ce goût, dire qu'il supposait qu'un certain homme du monde avait le même. Et sa seule raison de le croire est que cet homme du monde avait été aimable avec lui. Autant de raisons d'optimisme, dit naïvement le baron, dans la supputation du nombre. Mais la vraie raison de l'écart énorme qu'il y a entre ce nombre calculé par les profanes et celui calculé par les initiés vient du mystère dont ceux-ci entourent leurs agissements afin de les cacher aux autres, qui, dépourvus d'aucun moyen d'information, seraient littéralement stupéfaits s'ils apprenaient seulement le quart de la vérité. « Alors, à notre époque, c'est comme chez les Grecs ?» dit Brichot. « Mais comment, comme chez les Grecs ? Vous vous figurez que cela n'a pas continué depuis ? Regardez sous Louis XIV, le petit Vermandois, Molière, le prince Louis de Baden, Brunswick, Charolais, Boufflay, le grand Condé, le duc de Brissac. Je vous arrête, je savais, monsieur, je savais Brissac par Saint-Simon, Vendôme naturellement, et d'ailleurs bien d'autres. Mais cette vieille peste de Saint-Simon parle souvent du grand Condé et du prince Louis de Baden, et jamais il ne le dit. C'est tout de même malheureux que ce soit à moi d'apprendre son histoire à un professeur de Sorbonne. Mes chers maîtres, vous êtes ignorants comme une carpe. Vous êtes dur, baron, mais juste. Et tenez, je vais vous faire plaisir. Je me souviens maintenant d'une chanson de l'époque, confite en latin macaronique, sur certain orage qui surprit le grand Condé comme il descendait le Rhône, en compagnie de son ami, le marquis de la Moussaille. Condé dit « Carus amicus musixus, ah deus bonus quod tempus, landerirette imbre sumus perituri. » Et la Moussaille le rassure en lui disant « Securae sunt nostrae vitae, sumus enim sodomitae, ignetantum perituri, landeriri. » Je retire ce que j'ai dit, dit Charluse d'une voix aiguë et maniérée. Vous êtes un puits de science. Vous me l'écrirez, n'est-ce pas? Je veux garder cela dans mes archives de famille, puisque ma bisaïeule au troisième degré était la sœur de monsieur le prince. Oui, mais, baron, sur le prince Louis de Baden, je ne vois rien. Du reste, à cette époque-là, je crois qu'en général, l'art militaire... Quelle bêtise! Vendôme, Villars, le prince Eugène, le prince de Conti, et si je vous parlais de tous nos héros du Tonkin, du Maroc, et je parle des vraiment sublimes, et pieux, et nouvelle génération, je vous étonnerais bien. Ah, j'en aurais à apprendre aux gens qui font des enquêtes sur la nouvelle génération, qui a rejeté les vaines complications de ses aînés, dit monsieur Bourget. J'ai un petit ami là-bas, dont on parle beaucoup, qui a fait des choses admirables. Mais enfin, je ne veux pas être méchant. Revenons au XVIIe siècle. Vous savez que Saint-Simon dit du maréchal d'Uxelles, entre tant d'autres, « voluptueuse en débauche grecque, dont il ne prenait pas la peine de se cacher, et accrochait de jeunes officiers qu'il domestiquait, outre de jeunes valets très bien faits, et cela sans voile, à l'armée et à Strasbourg. » Vous avez probablement lu les lettres de madame. Les hommes ne l'appelaient que putain. Elle en parle assez clairement. Et elle était à bonne source pour savoir avec son mari. C'est un personnage si intéressant que madame, dit monsieur de Charlus. On pourrait faire, d'après elle, la synthèse lyrique de la femme d'une tante. D'abord Romas. Généralement, la femme d'une tante est un homme. C'est ce qui lui rend si facile de lui faire des enfants. Puis, madame ne parle pas des vices de monsieur, mais elle parle sans cesse de ce même vice chez les autres, en femme renseignée, et par ce pli que nous avons d'aimer à trouver, dans les familles des autres, les mêmes tares dont nous souffrons dans la nôtre, pour nous prouver à nous-mêmes que cela n'a rien d'exceptionnel, ni de déshonorant. Je vous disais que cela a été tout le temps comme cela. Cependant, le nôtre se distingue tout spécialement à ce point de vue. Et malgré les exemples que j'empruntais au XVIIe siècle, si mon grand aïeul François C. de La Rochefoucauld vivait de notre temps, il pourrait en dire, avec plus de raison que du sien, « Voyons, Brichot, aidez-moi. Les vices sont de tous les temps, mais si des personnes que tout le monde connaît avaient paru dans les premiers siècles, parlerait-on présentement des prostitutions d'Héliogabal ? Que tout le monde connaît me plaît beaucoup. Je vois que mon sagace parent connaissait le boniment de ses plus célèbres contemporains, comme je connais celui des miens. Mais des gens comme cela, il n'y en a pas seulement davantage aujourd'hui. Ils ont aussi quelque chose de particulier. Je vis que M. de Charlus allait nous dire de quelle façon ce genre de mœurs avait évolué. L'insistance avec laquelle M. de Charlus revenait toujours sur le sujet, à l'égard duquel, d'ailleurs, son intelligence, toujours exercée dans le même sens, possédait une certaine pénétration, avait quelque chose d'assez complexement pénible. Il était raseur comme un savant qui ne voit rien au-delà de sa spécialité, agaçant comme un renseigné qui tire vanité des secrets qu'il détient et brûle de divulguer, antipathique comme ceux qui, dès qu'il s'agit de leurs défauts, s'épanouissent sans s'apercevoir qu'ils déplaisent, assujetti comme un maniaque et irrésistiblement imprudent comme un coupable. Ces caractéristiques, qui dans certains moments devenaient aussi saisissantes que celles qui marquent un fou ou un criminel, m'apportaient d'ailleurs un certain apaisement. Car, leur faisant subir la transposition nécessaire pour pouvoir tirer d'elles des déductions à l'égard d'Albertine, et me rappelant l'attitude de celle-ci avec Saint-Loup, avec moi, je me disais, si pénible que fût pour moi l'un de ces souvenirs, et si mélancolique l'autre, je me disais qu'il semblait exclure le genre de déformation si accusée, de spécialisation forcément exclusive, semblait-il, qui se dégageait avec tant de force de la conversation comme de la personne de M. de Charlus. Mais celui-ci, malheureusement, se hâta de ruiner ses raisons d'espérer, de la même manière qu'il me les avait fournies, c'est-à-dire sans le savoir. « Oui, dit-il, je n'ai plus 25 ans, et j'ai déjà vu changer bien des choses autour de moi. Je ne reconnais plus ni la société où les barrières sont rompues, où une cohue sans élégance et sans décence danse le tango jusque dans ma famille, ni les modes, ni la politique, ni les arts, ni la religion, ni rien. Mais j'avoue que ce qui a encore le plus changé, c'est ce que les Allemands appellent l'homosexualité. Mon Dieu, de mon temps, en mettant de côté les hommes qui détestaient les femmes, et ceux qui, n'aimant qu'elles, ne faisaient autre chose que par intérêt, les homosexuels étaient de bons pères de famille et n'avaient guère de maîtresses que par couverture. J'aurais eu une fille à marier, que c'est parmi eux que j'aurais cherché mon gendre, si j'avais voulu être assurée qu'elle ne fût pas malheureuse. Hélas, tout est changé. Maintenant, ils se recrutent aussi parmi les hommes qui sont les plus enragés pour les femmes. Je croyais avoir un certain flair, et quand je m'étais dit « sûrement non, n'avoir pas pu me tromper », eh bien, j'en donne ma langue au chat. Un de mes amis, qui est bien connu pour cela, avait un cocher que ma belle-sœur Oriane lui avait procuré, un garçon de Combray qui avait fait un peu tous les métiers, mais surtout celui de retrousseur de jupons, et que j'aurais juré aussi hostile que possible à ces choses-là. Il faisait le malheur de sa maîtresse en la trompant avec deux femmes qu'il adorait, sans compter les autres, une actrice et une fille de brasserie. Mon cousin, le prince de Guermantes, qui a justement l'intelligence agaçante des gens qui croient tout trop facilement, me dit un jour « Mais pourquoi est-ce que X ne couche pas avec son cocher? Qui sait si ça ne lui ferait pas plaisir à Théodore? C'est le nom du cocher. Et s'il n'est même pas très piqué de voir que son patron ne lui fait pas d'avance? » Je ne pus m'empêcher d'imposer silence à Gilbert. J'étais énervée à la fois de cette prétendue perspicacité qui, quand elle s'exerce indistinctement, est un manque de perspicacité, et aussi de la malice cousue de fil blanc de mon cousin qui aurait voulu que notre ami X essayât de se risquer sur la planche pour, si elle était viable, s'y avancer à son tour. « Le prince de Guermantes a donc ses goûts ?» demanda Brichot avec un mélange d'étonnement et de malaise. « Mon Dieu !» répondit M. de Charlus ravi. « C'est tellement connu que je ne crois pas commettre une indiscrétion en vous disant que oui. Eh bien, l'année suivante, j'allais à Balbec. Et là, j'appris, par un matelot qui m'emmenait quelquefois à la pêche, que mon Théodore, lequel, entre parenthèses, a pour sœur la femme de chambre d'une amie de Madame Verdurin, la baronne Pudbu, venait sur le port, levait tantôt un matelot, tantôt un autre, avec un toupet d'enfer, pour aller faire un tour en barque, et autre chose, y tout. Ce fut à mon tour de demander si le patron dans lequel j'avais reconnu le monsieur, qui à Balbec jouait aux cartes toute la journée avec sa maîtresse, et qui était le chef de la petite société des quatre amis, était comme le prince de Guermantes. « Mais voyons, c'est connu de tout le monde, il ne s'en cache même pas. »« Mais il avait avec lui sa maîtresse. »« Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Sont-ils naïfs, ces enfants ?» me dit-il d'un ton paternel, sans se douter de la souffrance que j'extrayais de ses paroles en pensant à Albertine. « Elle est charmante, sa maîtresse !»« Mais alors, ses trois amis sont comme lui ?»« Mais pas du tout » s'écria-t-il en se bouchant les oreilles, comme si, en jouant d'un instrument, j'avais fait une fausse note. « Voilà maintenant qu'il est à l'autre extrémité. Alors, on n'a plus le droit d'avoir des amis. » « Ah, la jeunesse, ça confond tout. Il faudra refaire votre éducation, mon enfant. » « Or, reprit-il, j'avoue que ce cas, et j'en connais bien d'autres, si ouvert que je tâche de garder mon esprit à toutes les hardiesses, m'embarrasse. Je suis bien vieux jeu, mais je ne comprends pas, » dit-il du ton d'un vieux gallican parlant de certaines formes d'ultramontanisme, d'un royalisme libéral parlant de l'Action française ou d'un disciple de Claude Monet, des cubistes. Je ne blâme pas ces novateurs, je les envie plutôt. Je cherche à les comprendre, mais je n'y arrive pas. S'ils aiment tant la femme, pourquoi, et surtout dans ce monde ouvrier où c'est mal vu, où ils se cachent par amour-propre, ont-ils besoin de ce qu'ils appellent un môme? C'est que cela leur représente autre chose? Quoi? Qu'est-ce que la femme peut représenter d'autre à Albertine, pensais-je. Et c'était bien là, en effet, ma souffrance. « Décidément, baron, dit Brichot, si jamais le conseil des facultés propose d'ouvrir une chaire d'homosexualité, je vous fais proposer en première ligne, ou plutôt non, un institut de psychophysiologie spéciale vous conviendrait mieux. Et je vous vois surtout pourvu d'une chaire au Collège de France, vous permettant de vous livrer à des études personnelles dont vous livreriez les résultats, comme le fait le professeur de tamoul ou de sanskrit devant le très petit nombre de personnes que cela intéresse. Vous auriez deux auditeurs et la pariteur, soit dit sans vouloir jeter le plus léger soupçon sur notre corps d'huissier, que je crois insoupçonnable. Vous n'en savez rien ? Répliqua le baron d'un ton dur et tranchant. « D'ailleurs, vous vous trompez en croyant que cela intéresse si peu de personnes. C'est tout le contraire !» Et sans se rendre compte de la contradiction qui existait entre la direction que prenait invariablement sa conversation et le reproche qu'il allait adresser aux autres, « C'est au contraire effrayant » dit-il à Brichot d'un air scandalisé et contrit. « On ne parle plus que de cela !» C'est une honte, mais c'est comme je vous le dis, mon cher. Il paraît qu'avant-hier, chez la duchesse d'Agen, on n'a pas parlé d'autre chose pendant 2 heures. Vous pensez, si maintenant les femmes se mettent à parler de ça, c'est un véritable scandale. Ce qu'il y a de plus ignoble, c'est qu'elles sont renseignées, ajouta-t-il avec un feu et une énergie extraordinaires, par des pestes, de vrais salauds, comme le petit Châtellerault, sur qui il y a plus à dire que sur personne, et qui leur raconte les histoires des autres. On m'a dit qu'il disait pique-pendre de moi, mais je n'en ai cure. Je pense que la boue et les saletés jetées par un individu qui a failli être renvoyé du jockey pour avoir truqué un jeu de cartes ne peut retomber que sur lui. Je sais bien que, si j'étais Jane d'Agen, je respecterai assez mon salon pour qu'on n'y traite pas des sujets pareils, et qu'on ne traîne pas chez moi mes propres parents dans la fange. Mais il n'y a plus de société, plus de règles, plus de convenances. Pas plus pour la conversation que pour la toilette. Ah, mon cher, c'est la fin du monde. Tout le monde est devenu si méchant. C'est à qui dira le plus de mal des autres. C'est une horreur. Lâche comme je l'étais déjà dans mon enfance à Combray, quand je m'ennuyais pour ne pas voir offrir du cognac à mon grand-père et les vains efforts de ma grand-mère, le suppliant de ne pas le boire, je n'avais plus qu'une pensée, partir de chez les Verdurin avant que l'exécution de Charlus ait eu lieu. « Il faut absolument que je parte, » dis-je à Brichot. « Je vous suis, » me dit-il. « Mais nous ne pouvons pas partir à l'anglaise. Allons dire au revoir à Madame Verdurin. » conclut le professeur, qui se dirigea vers le salon de l'air de quelqu'un qui, au petit jeu, va voir si on peut revenir. Pendant que nous causions, Monsieur Verdurin, sur un signe de sa femme, avait emmené Morel. Madame Verdurin, du reste, eut-elle, toute réflexion faite, trouvé qu'il était plus sage d'ajourner les révélations à Morel, qu'elle ne l'eût plus pu. Il y a certains désirs, parfois circonscrits à la bouche, qui, une fois qu'on les a laissés grandir, exigent d'être satisfaits, quelles que doivent en être les circonstances. On ne peut plus résister à embrasser une épaule décolletée qu'on regarde depuis trop longtemps, et sur laquelle les lèvres tombent, comme le serpent sur l'oiseau, à manger un gâteau d'une dent que la fringale fascine, à se refuser l'étonnement, le trouble, la douleur ou la gaieté qu'on va déchaîner dans une âme par des propos imprévus. Telle, ivre de mélodrame, Madame Verdurin avait enjoint à son mari d'emmener Morel et de parler coûte que coûte au violoniste. Celui-ci avait commencé par déplorer que la reine de Naples fût partie sans qu'il eût pu lui être présenté. Monsieur de Charlus lui avait tant répété qu'elle était la sœur de l'impératrice Élisabeth et de la duchesse d'Alençon, que la souveraine avait pris, aux yeux de Morel, une importance extraordinaire. Mais le patron lui avait expliqué que ce n'était pas pour parler de la reine de Naples qu'ils étaient là, et était entré dans le vif du sujet. « Tenez, » avait-il conclu au bout de quelque temps. « Tenez, si vous voulez, nous allons demander conseil à ma femme. Ma parole d'honneur, je ne lui en ai rien dit. Nous allons voir comment elle juge la chose. Mon avis n'est peut-être pas le bon, mais vous savez quel jugement sûr elle a. Et puis elle a pour vous une immense amitié. Allons lui soumettre la cause. » Et tandis que Madame Verdurin attendait avec impatience les émotions qu'elle allait savourer en parlant aux virtuoses, puis, quand il serait parti, à se faire rendre un compte exact du dialogue qui avait été échangé entre lui et son mari, et ne cessait de répéter « Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? J'espère au moins qu'Auguste, en le tenant un temps pareil, aura su convenablement le styler. » Monsieur Verdurin était redescendu avec Morel, lequel paraissait fort ému. « Il voudrait te demander un conseil, » dit Monsieur Verdurin à sa femme, de l'air de quelqu'un qui ne sait pas si sa requête sera exaucée. Au lieu de répondre à Monsieur Verdurin, dans le feu de la passion, c'est à Morel que s'adressa Madame Verdurin. « Je suis absolument du même avis que mon mari. Je trouve que vous ne pouvez pas tolérer cela plus longtemps. » s'écria-t-elle avec violence, oubliant, comme fiction futile, qu'il avait été convenu entre elle et son mari qu'elle était censée ne rien savoir de ce qu'il avait dit au violoniste. « Comment? Tolérer quoi ?» balbutia M. Verdurin, qui essayait de feindre l'étonnement et cherchait, avec une maladresse qui expliquait son trouble, à défendre son mensonge. « Je l'ai deviné, ce que tu lui as dit !» répondit Mme Verdurin, sans s'embarrasser du plus ou moins de vraisemblance de l'explication, et se souciant peu de ce que, quand il se rappellerait cette scène, le violoniste pourrait penser de la véracité de sa patronne. « Non, » reprit Madame Verdurin, « je trouve que vous ne devez pas souffrir davantage cette promiscuité honteuse avec un personnage flétri. qui n'est reçu nulle part !» ajouta-t-elle, n'ayant cure que ce ne fût pas vrai, et oubliant qu'elle le recevait presque chaque jour. « Vous êtes la fable du conservatoire !» ajouta-t-elle, sentant que c'était l'argument qui porterait le plus. « Un mois de plus de cette vie, et votre avenir artistique est brisé !» Alors que, sans le charlus, vous devriez gagner plus de 100 000 francs par an. Mais je n'avais jamais rien entendu dire. Je suis stupéfait, je vous suis bien reconnaissant, murmura Morel les larmes aux yeux. Mais, obligé à la fois de feindre l'étonnement et de dissimuler la honte, il était plus rouge et suait plus que s'il avait joué toutes les sonates de Beethoven à la file. Et dans ses yeux montaient des pleurs que le maître de bonne ne lui aurait certainement pas arrachés. « Si vous n'avez rien entendu dire, vous êtes le seul. C'est un monsieur qui a une sale réputation et qui a de vilaines histoires. Je sais que la police l'a à l'œil, et c'est du reste ce qui peut lui arriver de plus heureux pour ne pas finir comme tous ses pareils, assassiné par des apaches. » ajouta-t-elle. Car en pensant à Charlus, le souvenir de Madame de Duras lui revenait, et dans la rage dont elle s'enivrait, elle cherchait à aggraver encore les blessures qu'elle faisait au malheureux Charlie, et à venger celles qu'elle-même avait reçues ce soir. Du reste, même matériellement, il ne peut vous servir à rien. Il est entièrement ruiné depuis qu'il est la proie de gens qui le font chanter, et qui ne pourront même pas tirer de lui les frais de leur musique. Vous encore moins les frais de la vôtre, car tout est hypothéqué, hôtel, château, etc. » Morel ajouta d'autant plus aisément foi à ce mensonge que M. de Charlus aimait à le prendre pour confident de ses relations avec des apaches, race pour qui un fils de valet de chambre, si crapuleux qu'il soit lui-même, professe un sentiment d'horreur égal à son attachement aux idées bonapartistes. Déjà, dans l'esprit rusé de Morel, avait germé une combinaison analogue à ce qu'on appela, au XVIIIe siècle, le renversement des alliances. Décidé à ne jamais reparler à M. de Charlus, il retournerait le lendemain soir auprès de la nièce de Jupien, se chargeant de tout arranger. Malheureusement pour lui, ce projet devait échouer, M. de Charlus ayant le soir même avec Jupien un rendez-vous auquel l'ancien giletier n'osa manquer malgré les événements. D'autres, qu'on va voir, s'étant précipités du fait de Morel, quand Jupien en pleurant raconta ses malheurs au baron, celui-ci, non moins malheureux, lui déclara qu'il adoptait la petite abandonnée, qu'elle prendrait un des titres dont il disposait, probablement celui de Mademoiselle d'Oléron, lui ferait donner un complément parfait d'instruction et faire un riche mariage. Promesses qui réjouirent profondément Jupien et laissèrent indifférente sa nièce, car elle aimait toujours Morel, lequel, par sottise ou cynisme, entrait en plaisantant dans la boutique quand Jupien était absent. « Qu'est-ce que vous avez ?» disait-il en riant, avec vos yeux cernés, des chagrins d'amour? Dame, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après tout, on est bien libre d'essayer une chaussure, à plus forte raison une femme, et si cela n'est pas à votre pied. » Il ne se fâcha qu'une fois parce qu'elle pleura, ce qu'il trouva lâche, un indigne procédé. On ne supporte pas toujours bien les larmes qu'on fait verser. Mais nous avons trop anticipé, car tout ceci ne se passa qu'après la soirée Verdurin, que nous avons interrompue, et qu'il faut reprendre où nous en étions.